Ce soir, je voudrais partager une pensée avec vous sur Jean chapitre 1, ça va du verset 45 au verset 51. On va juste lire peut-être, on va lire les 6 versets, allez. Donc Jean chapitre 1, verset 45 à 51. Alors il nous dit ceci: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui qui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. Ce passage, pour le contexte, on sait, c'est la période des évangiles, le début du ministère de Jésus. Jésus est en train d'appeler les disciples, les premiers disciples. Philippe amène Nathanaël auprès de Jésus. Et on voit donc le Nathanaël qui a une première révélation. Et une première révélation parce qu'en fait Jésus lui dit qu'il le connaissait et qu'il l'avait vu sous le figuier. Et Nathanaël est vraiment touché. Je veux dire, il comprend que Jésus en fait est le Fils de Dieu et celui dont Ésaïe parlait, qu'il y aurait, il aurait l'esprit de lui sur lui, il aurait l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, etc. Donc Nathanaël est vraiment saisi par l'esprit de connaissance de Jésus. Et ce qui est intéressant, ça c'est le premier point. Mais la deuxième raison qui est donnée à Nathanaël pour croire, cette fois-ci c'est Jésus qui lui donne. En fait, il dit: bon, ok, Nathanaël, tu crois parce qu'en fait parce que je t'ai vu sous le figuier. Ok, c'est vrai. Maintenant, je vais te donner une autre raison de croire. C'est que maintenant, vous allez voir les anges descendre du ciel sur le Fils de l'homme. Et ça, c'est. Je voulais juste qu'on partage ce soir là-dessus, sur l'échelle, sur le qui. En fait, Jésus est en train de faire une référence au songe de Jacob en Genèse 28. Je voulais un peu creuser parce que parallèlement, donc il y a une étude sur les patriarches que je faisais. Je voulais vous partager un peu la méditation là-dessus. Et donc Jésus va donner une deuxième raison à Nathanaël de croire, c'est les miracles que les disciples vont voir et le service des anges, bien sûr, de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Jésus ne s'adresse plus à Nathanaël, il s'adresse aux disciples, à tous les disciples, à vous. Il dit: vous allez voir. La première raison, c'est Nathanaël, bien sûr. La deuxième, c'est vous, les disciples. Donc, la question qui se pose, c'est cette déclaration de Jésus qui est très importante, parce qu'il dit: en vérité, je vous le dis, chaque fois qu'une déclaration de Jésus est importante, il la commence toujours par en vérité, en vérité. Donc, c'est une déclaration importante que Jésus est en train de faire. Cette déclaration, dans quelle mesure elle s'inscrit, en fait? Jésus fait référence à Jacob. Il est en train de la déclarer au temps des disciples. Et donc, dans quelle temporalité s'inscrit, en fait, cette déclaration de Jésus? C'est vrai, pour les patriarches, elle a été pour les disciples au temps de Jésus, mais elle est également pour nous, pour l'Église, et elle sera également aussi pour le règne de Jésus dans le millénium. Ça, c'est Osée qui parle de ce règne de Jésus dans son millénium et du service des anges. Vous pouvez voir ça en Osée. Donc, ce que Jésus est en train de déclarer là, c'est très simple. Il dit, voilà, l'échelle, ben c'est moi. En d'autres termes, c'est simple. L'échelle du songe de Jacob, c'est moi, en fait. Aujourd'hui, je suis le lien, je suis le moyen de communication du ciel vers la terre. Et donc ça, c'est intéressant parce que si on regarde les bénédictions qui étaient attachées dans l'Ancien Testament, dans le songe de Jacob, aujourd'hui on peut les appliquer à notre marche, à notre vie. En quoi Dieu s'était-il engagé auprès de Jacob? J'aimerais juste donc ce soir prendre quelques étapes de la marche de Jacob pour voir de quelle manière elles nous sont aussi appliquées aujourd'hui. Ça va, vous me suivez? Si je vous perds, vous me le dites. Hein. Donc Jésus devient la nouvelle Bethel, ce qu'il est en train de dire. Et donc, dans le contenu de Genèse 28, chapitre 28, versets 12 à 22, le contenu de ce passage, on ne va pas le lire parce que ça prendrait trop de temps. Je rappelle juste le contenu. Il y a un rappel de la promesse qui a été faite à Abraham et à Isaac. Promesse pour le pays, la postérité et la bénédiction universelle. C'est ce qui est donné. Et il y a une seconde promesse qui est faite à Jacob lorsqu'il a sa vision. C'est « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai jamais et j'exécuterai ce que je dis. » Waouh, ça c'est bon. C'est ce que Jésus est pour nous. Il est l'échelle. Il est cet engagement que Dieu a pris à l'époque de Jacob. Il l'est pour les disciples et il l'est pour nous aujourd'hui. Jésus nous dit, je suis avec toi, je te garde, je suis partout où tu vas, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonne pas et j'exécuterai tout ce que j'ai promis. Wow. Et j'aimerais juste ce soir qu'on puisse s'approprier ces promesses-là et voir au travers aussi de la marche de Jacob comment elle s'applique aussi dans notre vie. Donc le parcours de Jacob, la première étape que j'ai choisie, c'est Bethel en fait. Lorsqu'il fuit son frère Ésaü, Jacob se retrouve seul. Vous savez, Rebecca lui a dit, écoute, pars à Charan, tu vas chez mon frère, parce que ton frère va te faire la peau. Et donc Jacob se retrouve seul sur la route de Charan. Et c'est intéressant parce que Dieu se révèle. La révélation de l'échelle de Jacob est faite à un moment où dans la vie de Jacob, c'est le moins propice en fait. Jacob est fugitif, il est dans la crainte de son frère, il a menti, il a escroqué son frère, il a menti à son père, et bizarrement, c'est là en fait où Dieu vient lui faire une révélation de l'échelle. Et ça nous parle vraiment de la grâce de Dieu en fait, de la grâce de Dieu. C'est au moment où Jacob le mérite le moins certainement devant Dieu, où Dieu va lui faire une révélation et c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Et c'est pareil pour nous en fait. C'est certainement le moment où nous sommes le moins enclin en fait à pouvoir nous présenter devant Dieu. Nous sommes fugitifs, nous sommes ce que nous sommes. Enfin, voilà, où notre vie peut-être est à l'image de la condition de Jacob à ce moment-là, où Dieu à une révélation, se révèle dans sa grâce. Parce que Jésus l'a dit, je suis avec toi, je te garde, et je te ramènerai. Et Dieu a déjà commencé ce travail dans la vie de Jacob. Dieu a déjà les yeux sur la manière dont il va la ramener. Mais déjà, la première des choses, c'est cette révélation à pure grâce de Dieu, par rapport à la condition de Jacob qui est catastrophique. Et ça me bénit. Si Dieu a pu se révéler à Jacob dans cet état-là, waouh. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que Jacob, attention. Mais voilà. Donc c'était le premier point. Bethel, avec le cœur de Jacob. Et ce qui est marquant aussi, c'est la manière dont Jacob répond à cette initiation de Dieu. Dieu lui dit, je suis avec toi, je te garde, je te ramènerai, etc. Et Jacob n'a pas la capacité, en fait, de recevoir cette grâce. Il l'entend, il le voit, il le reçoit, mais en fait, avec ce qu'il est, quoi. Et du coup, derrière, vous avez encore une négociation de Jacob. Il dit, ah bon, ok, alors si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me ramènes, si tu me donnes tout ce qu'il faut à manger et boire, tout, écoute, tu seras mon Dieu, je te donnerai même la dîme. Oui, Jacob, il reçoit une révélation de grâce, mais encore, il négocie. Donc, je veux dire, c'est pas gagné, hein, c'est le début. Mais c'est nous, quoi, en fait. C'est nous, dans notre marche aussi. Parfois, on a si peu de capacité à saisir la grâce parce que l'homme naturel voilà et Dieu nous éduque, Dieu va se révéler en nous comme il s'est révélé à Jacob et des si il y en a dans notre vie, des si Oh Seigneur, si tu pouvais bénir mon entreprise, si, ah, tu serais un grand Dieu. c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Et Jésus est là, et voilà, et notre échelle est là aussi. Le deuxième lieu, c'est chez Laban, à Charan. Alors Jacob arrive chez Laban. Donc il y a eu la révélation. Là, donc, la disposition de Jacob, c'est quoi? Maintenant, j'ai une mission. Waouh! Dieu va me donner une postérité, donc il faut que je me trouve une femme. Voilà, il me faut une femme. Il arrive chez Laban, vraiment, il est plein de zèle pour cette nouvelle mission, quoi. Et le point fort, on va dire, de cette situation chez Laban, c'est ce que Dieu va apprendre à Jacob dans cette saison où il va être chez Laban, en fait. Dieu va apprendre à Jacob qui il est. Il va lui montrer sa vraie nature, en fait. Parce qu'en fait, Jacob est le fils de Rebecca. Rebecca est la sœur de Laban. Laban est un frère d'Abraham. En fait, Dieu est en train de le renvoyer là d'où il vient, en fait. Parce qu'il va lui enseigner une chose. Il va lui enseigner quelle est sa véritable nature. D'où il vient, d'où il sort, en fait. Pourquoi il est trompeur? Jacob n'est pas trompeur comme ça. C'est parce qu'il vient de là. Il vient d'un monde de tromperie. Il vient d'une famille de trompeurs. Et c'est ce qui va se passer. Avec Laban, c'est quoi, en fait? C'est Jacob, un trompeur, qui rencontre un trompeur. Parce qu'ils vont faire que ça dans cette histoire. Ils vont se tromper l'un l'autre. Ils vont se tromper l'un l'autre. Laban va le tromper sur la femme. Il va dire, ouais, je te donne Rachel, ouais. Et hop, il lui balance Léa. C'est terrible. Et Jacob, en colère. Mais en fait, Jacob, il est simplement en train de vivre ce que lui a fait vivre à son père, à son frère. Il a usurpé son père en se faisant passer pour son frère. Laban usurpe Jacob en lui disant qu'il va lui donner Rachel. En fait, il lui donne Léa. C'est la famille, quoi. Vous voyez, c'est la famille. Ils sont en famille. Et Jacob a besoin d'être ramené là d'où il vient. Et ça parle de nous, en fait. Dieu a besoin de nous ramener là d'où nous venons pour que nous comprenions notre nature, en fait. Notre nature. Nous sommes nés dans l'iniquité, nous dit le psalmiste, et c'est ce qu'on est en réalité, quoi. Et voilà. Mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garde. Je te garde. Je te ramène. Jésus est là, et il est notre échelle, et c'est ce qu'il était en train d'annoncer aux disciples, et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui au travers de sa parole. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est vrai que c'est peut-être pas évident que tu sois confronté à ce que tu es réellement dans ta nature. Tu es un trompeur. Je suis un trompeur. Vous êtes un trompeur. Nous sommes des trompeurs. Mais la grâce de Dieu est là. Ça, c'est Laban. Et encore, on pourrait. Pour Laban, c'était normal de fonctionner comme ça, en fait. Laban, il n'est pas sorti. Laban, il n'a pas vu Bethel. Laban n'a pas eu de révélation. Vous voyez? Mais Jacob en a eu une. Jacob a eu une révélation de Dieu. Et ça nous parle aussi du fait que parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant cette révélation de la grâce de Dieu, parfois, on peut se retrouver aussi à se rabaisser au même niveau que ce monde, que cette tromperie du monde, etc. Et c'est en ça que Jacob est peut-être moins excusable que Laban, parce que Laban n'a pas eu de révélation de la grâce de Dieu, comme Jacob l'a eu. Et ça nous parle aussi parfois de ce qu'on peut accepter de descendre là où on n'a rien à faire, en fait, en train de négocier avec nos Labans. On a des Labans, forcément. Mais Jésus me dit, je suis là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garde. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a gardé Jacob là-dedans. Ensuite, troisième lieu, Péniel. Péniel, c'est assez intéressant. Donc Péniel, vous savez ce qui se passe à Péniel. Dieu dit à Jacob de rentrer à Bethel. Jacob, il y a tout l'épisode avec son frère Ésaü, etc. Et à Péniel, en fait, Jacob va se battre. Va se battre avec le Seigneur, avec l'ange. Voilà. Et Péniel, on va dire que ce sera l'école du brisement. L'école du brisement pour Jacob. Et cette école du brisement dans laquelle nous avons besoin aussi de passer. Parce que Dieu a besoin de briser l'homme extérieur pour pouvoir manifester ce trésor qui est en nous. Ce trésor qui est en nous. Et Jacob, certainement, cette scène est une belle illustration de ce que Dieu fait dans nos vies et de la manière dont Christ nous garde de nous-mêmes. C'est vrai qu'il est avec nous, mais il nous garde. Et parfois, il nous garde aussi par le moyen de la discipline. Et le brisement est un moyen de discipline que Christ utilise dans nos vies. Que Christ utilise dans nos vies. C'est une nécessité pour pouvoir nous ramener aussi. Le brisement est parfois une nécessité pour pouvoir nous ramener. Et intéressant, donc le verset nous dit que Jacob se retrouva seul. Seul avec Dieu. Le brisement nécessite que nous soyons seuls avec Dieu. Ça permet une juste connaissance de nous-mêmes. Le cœur de ce combat, en fait, entre Jacob et l'ange et Dieu, c'est que Dieu voulait l'amener à un point, c'était lui montrer qu'en fait Jacob était un être faible et misérable. Faible et misérable. C'est le moyen parfois que Dieu utilise pour nous ramener à lui. Faible et misérable. Jacob se bat, il se bat, il se bat. Il y a encore cette confiance dans la chair, dans sa force naturelle. Et à un moment, Dieu lui dit, ah ouais. Et Dieu le... Je ne sais pas comment on dit ça, Pasteur Yohan, c'est un achagari ou ce que vous voulez. Et Dieu le frappe, et il le couche, et il l'allonge, et il le stoppe, il le stoppe. On parle de la nécessité de la chair d'être arrêtée et de la confiance qu'on peut mettre dans la chair aussi. Elle doit être stoppée par Dieu. Et ce qui est incroyable, dans cette scène, c'est ce que dit Jacob. En fait, Jacob s'accroche à l'ange. Et là, dans ce brisement, Jacob a une parole de piété, une parole de foi incroyable. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on l'entend parler comme ça. Et il faut qu'il soit par terre avec la hanche démise. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Si ça, c'est pas une parole de foi, une parole de piété, alors il n'y en a pas. Et ça sort de la bouche de Jacob. Jacob s'accroche, il dit non, Seigneur, cette fois-ci, tu sais quoi? Je te lâche pas. Waouh! Il n'y a pas de négociation là. Là, il ne peut rien négocier, il ne peut rien offrir, il n'y a pas de marchandage. Il dit là, maintenant, je te tiens et je te lâche pas. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, c'est une œuvre que Dieu fait dans nos vies par le brisement. Aussi difficile que ça puisse paraître, le brisement permet à Dieu de faire sortir, de faire émerger ce qu'il voit en nous, que nous, on ne voit pas forcément, mais ce que lui a mis en nous, ce qu'il voit en nous. Cette foi, cette piété, quoi. Et c'est vraiment, c'est le paradoxe de la vie chrétienne, c'est le brisement. Et Jacob a une parole de foi extraordinaire. Non, je te lâche pas, c'est fini, je te lâche pas. Ok, tu me lâches pas. Maintenant, tu t'appelles Israël. Parce que moi, c'est Israël que je suis venu voir. C'est pas Jacob, c'est Israël. Et moi, je te connais comme Israël. Et Israël, je le connais. Je le connais parce que c'est un homme de foi. Ouh, c'est beau. C'est à ça que Dieu voulait en arriver avec Jacob. Ouais. C'est une grande leçon. C'est une grande leçon pour nous aussi, pour notre vie chrétienne. Que Dieu nous donne le discernement, le regard sur les brisements qu'il permet, qu'il opère dans nos vies. Vraiment. Parce que ça permettra à l'Esprit de Dieu de pouvoir exprimer tout ce qu'il est en nous, de la foi qu'il veut mettre en action. Et donc, bien sûr, la jambe, je veux dire, la hanche démise, ça nous parle d'un signe de mort inscrit dans la chair de Jacob. À partir de maintenant, il aura ce signe-là sur sa vie. Il marchera tout ce qu'il va faire, en fait, il sera comme ça, quoi. Et c'est la croix. Ça y est, Jacob, c'est la croix, et tout ce qu'il fera va être marqué de ce signe-là. Puis ça, c'est ce qui est nécessaire pour notre vie. 2 Corinthiens 12, 9, Paul nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jacob, Israël, tu es puissant maintenant. Ouais, tu boites, mais tu es puissant. Et la prochaine étape, je ne sais pas combien de temps j'en suis, si quelqu'un suit, peut-être. Là, c'est à Soukhot. Prochaine étape. Donc ensuite, après Péniel, Jacob part à Soukhot. Et Soukhot, donc vous savez, ça veut dire tente, donc le lieu des tentes en fait. Et là, il y a un enseignement important que Dieu rappelle à Jacob, c'est que nous sommes étrangers sur cette terre. Soukhot nous parle des tentes, parle du fait que nous sommes citoyens des cieux et non pas étrangers, citoyens des cieux, adorateurs, citoyens des cieux et étrangers sur la terre et témoins. Et Jacob a oublié ça en fait. Parce que il arrive à Soukhot, qu'est-ce qu'il fait? Il se bâtit une maison. Il fait tout à l'envers. Et c'est nous, ça. Parfois, on fait tout à l'envers. Tu nous dis, t'es pas sage. Ok, mais je me construis quand même une belle maison, hein, puisque j'ai l'intention de rester. Et ça, c'est une belle leçon dans notre marche aussi, à la manière dont Christ nous sait nous garder aussi. Et non, tu es étranger. On est des pèlerins sur cette terre. Et Jacob va être ramené, encore une fois, là où il doit être amené, par Dieu. Et il va quitter Soukhot. Il va quitter sa maison. Et il va aller un peu plus loin. Il va aller un peu plus loin. Et il va aller à Sichem. Sichem. Vous savez un peu ce qui s'est passé à Sichem. Dieu l'appelle toujours à Bethel, hein, mais lui, donc, il fait des étapes. Il fait des étapes. Et on fait des étapes dans notre vie. On fait des étapes. Dieu est patient avec nous. Il est très patient avec nous. Et l'étape suivante, c'est Sichem. Qu'est-ce qui se passe à Sichem? Jacob dresse un autel. Un autel à son Dieu, c'est El Eloé Israël. El Eloé Israël, c'est intéressant. Le Dieu puissant d'Israël. Il arrive à Sichem et il dresse un autel au Dieu puissant d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Jacob grandit dans la connaissance de Dieu, c'est vrai. La preuve, il y a cet élan toujours d'adoration. Mais cet autel, le problème de cet autel, c'est que c'est l'autel du Dieu d'Israël. C'est l'autel de son Dieu. C'est l'autel de son Dieu. Et dans cette période, Jacob va être absolument inconscient de ce qui va se passer autour de lui. Et dans sa famille, ça va être une catastrophe. Il y a la fameuse affaire avec sa fille, qui est kidnappée par Sichem, le fils. Et les enfants qui vont, vous savez, tout ce Trafalgar, tout cet... Oui, vous allez devenir, circoncisez-vous, et puis on va vous faire la peau. On va vous faire la peau. Et Jacob est pas du tout... il est pas là. Jacob est pas là, en fait. Jacob est pas là. Il est dans sa vie avec Dieu. Il n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Le seul moment où il en est conscient, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez quoi? On va nous détruire. Notre famille va être détruite. Et là, à nouveau, Jacob est dans la crainte. Il oublie les promesses de Dieu. Il se retrouve à nouveau dans cette crainte en disant, mais la bénédiction, la promesse, tout ce que, etc., tout ça, ça part. Ils vont nous tuer. Ils vont se coaliser et ils vont nous tuer. Et en fait, la leçon de cet épisode, c'est que Jacob n'est pas appelé à Sichem. Jacob n'était pas appelé à Sichem. Et Dieu ne le voulait pas à Sichem. Dieu ne lui a jamais dit d'aller à Sichem et de faire un autel. Dieu lui a dit, tu viens à Bethel. Et l'intention de Jacob était bonne? Oui, son cœur, oui, c'est vrai. Il élève un autel, il veut adorer. Parce qu'en fait, quand on élève un autel, ça concerne l'adoration. On met de l'huile, etc. Ça devient un lieu d'adoration. Contrairement au monument qu'il avait fait au départ quand il a reçu la vision, qui était un monument, à Bethel, quand il reçoit la vision, il élève un monument, d'accord, qui sert juste en fait pour le souvenir, d'accord, pour le souvenir et la transmission de l'histoire aux enfants, etc. Mais là, il arrive à Sichem, il élève un autel, ça nous parle de l'adoration. C'est vrai que Jacob a décidé d'adorer son Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Dario, le Dieu de... Oui, mon Dieu à moi, ma vie, ce que je vis, moi, avec mon Dieu. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est bien. Je veux dire, l'intention de loi, mais ça suffit pas. Dieu, c'est quoi? Il attend Jacob à El Bethel. À El Bethel. Le Dieu de la maison de Dieu. Notre vie chrétienne, si elle est vécue uniquement pour nous-mêmes, Elle n'est pas suffisante pour Dieu. Elle n'est pas complète. C'est pas là où Dieu nous veut. C'est une belle leçon que Jacob reçoit, en fait. Parce que dès le moment où Dieu à nouveau le rappelle, il dit non, tu viens à Bethel. Qu'est-ce qui se passe? Jacob devient immédiatement conscient de son environnement. Et là, il dit, purifiez-vous, ôtez les dieux. Et là, le Dieu de El Bethel se manifeste dans le cœur de Jacob, et Jacob devient conscient, en fait, de ce qu'il est en train de vivre. Il est conscient de son environnement, alors qu'avant, il n'était pas du tout conscient de ce qui se passait. D'où, en fait, sa responsabilité dans l'histoire. Parce qu'on aurait pu dire non, Jacob n'est pas responsable. C'est ses fils qui ont complètement, voilà, qui sont partis en vrac. Mais non. C'était Jacob avait une responsabilité, c'est qu'il n'avait rien à faire là. Et il vivait juste sa relation personnelle avec Dieu. Mais Dieu veut plus. Dieu est le Dieu de sa maison. Et Dieu nous appelle à lui dans sa maison. À lui dans sa maison. Nous sommes appelés à Christ dans le corps de Christ. On ne peut pas vivre Christ sans être dans le corps de Christ. C'est impossible. On ne peut pas vivre notre communion avec Dieu dans un environnement impur, idolâtre et qui ne glorifie pas Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est le corps de Christ qui peut nous donner toute la pleine conscience de ce qu'est Dieu. De ce qu'est Dieu. Et ça, Jacob ne l'avait pas. Et pourtant, Dieu lui demandait d'aller dans... Et c'est une grande leçon pour nous, en fait. Une grande leçon. Je ne crois pas aux chrétiens qui peuvent vivre ce qu'ils veulent dans le monde sans avoir de vie, de corps. Non, ils n'ont pas la pleine mesure. Ils n'ont pas la pleine mesure de la sainteté de Dieu, ni de ce qu'est la maison de Dieu. C'est impossible, impossible. Et c'est la grande leçon de ce passage pour moi, en tout cas dans cette lecture. Oui, il y a une différence morale entre Jacob à Bethel et Jacob à Sichem. Une grande différence morale, de par son environnement. Sichem, c'est le Dieu d'un seul individu. Bethel, c'est le Dieu de sa maison. Acte 5, Ananias et Saphira ont reçu cette leçon. Ils ont reçu cette leçon. Et Dieu a manifesté ce qu'était son Église. Ça a été violent pour eux, mais ça a été vraiment parlant pour les croyants. On peut pas vivre Dieu en vue de soi-même uniquement. C'est pas... Et voilà, donc le monument de Bethel devient un autel à El Bethel. Je vais conclure là-dessus. Le monument de Bethel devient un autel à El Bethel. Et c'est là où Dieu nous ramène. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous veut, en fait. En tant qu'adorateur. En tant qu'adorateur, en tant que... En tant qu'enfant de Dieu, ayant une relation avec son Dieu, c'est un des plus gros reproches que Jésus faisait aux religieux, c'était ça. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle, mais en fait, vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Et c'est un peu cette pensée-là. Dieu veut nous ramener à lui. Dieu veut nous ramener à lui, comme il a voulu ramener Jacob à lui. Et Jacob a grandi dans cette connaissance. Et Jacob est arrivé à Bethel, cette fois-ci, non pas à Bethel, mais à El Bethel. Parce qu'en plus de la maison de Dieu, il y avait le Dieu de la maison de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus, en fait, était en train de communiquer aux disciples. Et c'est ce qu'il nous communique à nous aussi. Soit on est venu, c'est vrai, à Christ, dans le corps de Christ. Amen. Soyez bénis.